testé. Et ce qu'on voit ce soir avec Gédéon, c'est que Dieu produit les héros. Dieu produit des héros et transforme la vie, transforme nos vies pour nous utiliser. Et Dieu voit un potentiel en nous quand on s'abandonne à lui pour qu'il nous transforme et qu'il nous utilise comme un pour être des héros aussi, des héros de la foi, comme ce que Gédéon était. Et on va voir ce soir un homme très simple, un homme qui avait en apparence pas grand-chose d'un héros, mais qui en est devenu un parce qu'il s'est laissé utiliser par Dieu. La dernière fois, on n'avait pas terminé la dernière portion de texte en ce qui concerne les juges. Vous vous souvenez, on avait vu Barak et Déborah. Et Barak avait un peu peur d'aller sous la parole de l'Éternel dite par Déborah, avait peur d'aller à la bataille contre les Cananéens. Et puis les Cananéens, vous vous souvenez, il y avait des chars de fer, et puis bon, c'était impressionnant. Et les hommes du peuple, les hommes de Dieu, les hommes qui auraient dû offrir un leadership au peuple n'étaient pas là. Déborah était une femme de Dieu, une femme qui était prophétesse, qui était juge, mais qui aussi, certainement, qu'elle avait une grande foi en Dieu. Et elle avait dit une chose à Barak, parce que Barak avait dit, « Je vais y aller, mais à condition que tu viennes avec moi. » Et là, ça l'encourageait Barak. Et puis, comme je disais, on ne lance pas de roche non plus à Barak, parce que souvent, on est dans des situations où on a besoin de frères et sœurs aussi pour nous aider à avancer. Et puis, ce soutien-là, il nous est cher. Mais dans le cas de Barak, Déborah lui avait dit, « Barak, si je t'accompagne, la gloire ne t'ira pas, mais va aller à une femme. » Voilà la femme. Et puis, alors, comme ça, ils sont partis. On connaît la suite de l'histoire. Les chars de fer se sont embourbés dans la boue. Et puis, parce que Dieu avait fait pleuvoir, et puis Dieu a fait donner un grand torrent d'eau, puis les chars avaient resté pris. Et c'était même avantageux pour les gens de se sauver à pied, finalement, parce que les chars étaient complètement inutiles. Et les gens se sont sauvés, et puis Israël a passé au fil de l'épée l'armée. Et là, il y avait Sisra qui, on imagine, mais pas on imagine, on sait qu'il était le chef de l'armée. On imagine qu'il peut-être regardait ses pions de l'arrière, et puis tout à coup, oups, problème, et puis il se sauve, et puis il a le temps de se sauver peut-être avant d'autres. Mais il se sauve, et puis on voit dans la suite de l'histoire, juste pour conclure ce qu'on avait vu la dernière fois avec l'histoire qu'on n'avait pas eu le temps de lire, on va prendre le temps de lire la fin de l'histoire, puis après ça, on va ouvrir la page avec Gédéon. On va finir l'histoire de Barak, Déborah, on va prier, et après ça, on va s'en aller avec un autre juge. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire Juges 4 à partir du verset 17? 17 jusqu'à la fin du chapitre 24. 17 à 24. Un volontaire qui voudrait lire ça? OK, Claude. OK. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu avait promis une victoire complète, définitive, et je ne l'ai pas passé par-dessus parce que je crois qu'il faut sceller ces événements, pas nécessairement l'événement comme tel, mais sceller du moins l'accomplissement de la parole de Dieu, que Dieu a dit une chose et que Dieu a donné la victoire complète, définitive, jusqu'à la fin. On voit Sisra qui se sauve et se cache dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, et puis Jaël, elle l'a caché, elle l'a couvert, et puis pendant qu'il était caché et avec la couverture sur lui, mais Jaël a achevé le chef de l'armée des Cananéens. Et après ça, Barak, lui, il courait après cet homme-là parce qu'il voulait, avoir sa peau comme les autres Cananéens, sauf que c'était une femme qui l'avait tué maintenant. On voit dans le cantique de Déborah que Déborah louange dans un sens l'acte de Jaël. On voit quand même par la suite, juste pour compléter, de dire que Dieu a vraiment apporté une victoire définitive, complète, pour libérer son peuple. Quand Dieu donne une liberté, il le libère jusqu'à la fin. Et regardez verset 23, on les a lus. « En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient quoi? Exterminé leur roi de Canaan. » Jusqu'à ce que la victoire soit complète et définitive. L'accomplissement final de la victoire s'est produit. Regardez chapitre 5, versets 24 à 27. On aurait pu lire chapitre 5 presque en entier. C'est le cantique de Déborah suite à tout cet événement-là. Et puis, on a quelques phrases en ce qui concerne les derniers faits. Verset 24. « Béni soit entre les femmes Jaël, femme d'Héber le Kénien. Béni soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle lui a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté de la crème. D'une main, elle a saisi le pieu et de sa droite, le marteau des travailleurs. Elle a frappé Sisra, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché à ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. L'honneur, comme ce que Déborah avait dit, la gloire, est allé à une femme. Il y aurait, j'imagine, plusieurs principes, plusieurs applications à tirer de ça, d'un événement où ce que le peuple d'Israël était affaibli par les Cananéens, et de voir aussi la relation qu'il y a entre une femme, Déborah, et aussi un homme. Comment est-ce que Dieu voulait les utiliser? Et comment est-ce que des hommes ont manqué, les hommes manquaient de courage, les hommes manquaient de leadership, de motivation spirituelle pour le peuple, et Déborah a été ce soutien-là pour le peuple, sans qu'elle prenne la place non plus de l'homme. Elle a offert un bon soutien à Barak, sans prendre sa place, mais en allant l'encourager. Et Barak a été sensible aussi à l'encouragement d'une femme, et il est allé aussi faire ce que Déborah l'encourageait. Et Barak est cité lui aussi parmi les héros de la foi. On pourrait dire beaucoup, je trouve que c'est... je ne vais pas ouvrir la porte nécessairement ce soir, mais en ce qui concerne les rôles de femmes et d'hommes, c'est important de prendre notre rôle, notre responsabilité que Dieu nous confie, et de les respecter aussi, puisque Dieu a établi des rôles aussi, entre les femmes et les hommes, qui sont complémentaires. Et dans le cas du peuple, malheureusement, les hommes à ce moment-là prenaient pas, ont manqué de courage et ont manqué, Barak et du moins s'est levé sous l'encouragement de Déborah avec 10 000 autres hommes, mais ça a le prix du temps. C'était pas naturel encore ce qu'on voit dans le cantique de Déborah qu'on avait lu la dernière fois. J'aimerais qu'on fasse un mot de prière. On va regarder, on ferme la page pour Barak et Déborah. Et après ça, on va commencer à regarder pour Gédéon. Alors, prions. Seigneur, on vient devant toi pour t'adorer premièrement. C'est tes Écritures, Seigneur, c'est ta parole. Et c'est toi qui parles à nos cœurs, c'est toi qui parles à nos têtes. Je te prie que tu puisses nous parler d'une façon claire ce soir. Pour que ta parole, Seigneur, ait un effet dans nos vies, qu'elle nous transforme, qu'on puisse la mettre en pratique d'une façon vraie, d'une façon qu'on a compris, Seigneur. Et je te prie que l'exemple de Gédéon soit un encouragement pour nos vies, à se laisser aussi modeler par toi, à se laisser diriger par toi et à te rencontrer aussi. C'est en nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie ces choses. Amen. OK. On est rendu à Juges chapitre 6. On vient de tourner. J'aimerais qu'on, avant qu'on aille un petit peu plus loin, juste faire une courte rétrospective des quelques juges qu'on a faits. Tu veux-tu peser, s'il te plaît, Richard, juste une fois sur le bouton? Il y a sept oppressions principales. La première oppression, j'avais la première diapositive qui montrait la liberté. Ce que Dieu veut que l'on vive, c'est cette liberté-là. Il avait conduit son peuple pour vivre la liberté, pour être en repos. Et pourtant, le peuple a vécu beaucoup d'oppression. Et cette première oppression-là était due à cause du péché, de l'idolâtrie. Suite à ça, Dieu a châtié son peuple par la domination des Mésopotamiens. Et ça a duré 8 ans. Dieu a envoyé un libérateur au moment que le peuple a crié, qui était Oniel. Et après ça, ils ont été en repos pendant 40 ans. Peux-tu mettre l'autre, s'il te plaît, Richard? Deuxième oppression, encore péché, immoralité, idolâtrie, encore du peuple. Suite à 40 ans de repos, ensuite de cela, Dieu les châtie par la domination de Moab. Et ça a duré 18 ans où ce que Moab a dominé Israël. Le libérateur, Dieu, le peuple a crié à Dieu dans un moment où ils n'étaient plus capables. Le libérateur est venu, envoyé par Dieu, qui était Éhud et Shamgar aussi, qu'on rentre dans cette même période-là. Et ils ont été après ça en repos pendant 80 ans. En repos où ils étaient destinés pour ça. Troisième oppression, péché et éloignement de Dieu. Après 80 ans, ils sont retournés dans leur péché. Après ça, Dieu les a châtiés par la domination qu'on vient de lire, justement, cananéenne. Ça a duré 20 ans. Ensuite de ça, le peuple a crié à Dieu. Dieu a envoyé un libérateur, juge et libérateur, Déborah, et puis Barak. Et puis le peuple a été en repos pendant 40 ans. Et où est-ce qu'on est rendu maintenant? On est rendu à Gédéon. On a... comment? On aurait pu utiliser ça pour David et Goliath. Mais Gédéon, vous allez voir, en lisant l'histoire, on a l'impression que Gédéon ressemble à ça face à l'ennemi. Encore là, on va voir le péché, l'éloignement du peuple, le châtiment, comment est-ce que Dieu va châtier son peuple avec Madian. Et ça a duré 7 ans. Dieu envoie un libérateur qui est Gédéon. Et ils vont être en repos après ça pendant 40 ans. On peut le laisser comme ça ou tu peux juste l'envoyer à l'autre, là. C'est les quatre, du moins juste pour faire une courte rétrospective de où est-ce qu'on est rendu. On est rendu à cette quatrième oppression-là. Et le peuple, on va voir dans les versets 1 à 10, cette quatrième oppression qui commence. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire les versets 1 à... On va commencer 1 à 10. Quelqu'un qui voudrait lire? OK, René. OK, on va arrêter là pour l'instant. Ce cycle-là que l'on voyait à travers les différentes oppressions revient à chaque fois après ce temps de repos à cause que le peuple a péché. Qu'est-ce que Israël a fait? On pourrait citer les diverses choses qu'on avait déjà dit en ce qui concerne les autres juges, mais ça revient encore à dire, comme on a vu au verset 10 qu'on vient de lire, « Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais n'avez pas écouté ma voix. Encore là, le peuple, on imagine qu'ils ont tombé dans cette idolâtrie-là, ou ce qu'ils ont abandonné le Dieu vivant pour servir les idoles sans vie, comme on disait tantôt du psaume 115, et qu'ils ont commencé à craindre les idoles, les dieux des Amoréens, quoi qu'ils ne soient pas des dieux. Et à cause de cela, ils ont tombé à cause encore dans le châtiment, dans cette perte de liberté, de repos, à cause qu'ils ont commencé à craindre les dieux des Amoréens. Et c'est passé, regardez la fin du verset 31 du chapitre 5. Le pays fut en repos pendant 40 ans après Barak et Gédéon, Barak et Déborah. Et comment ça se fait qu'après 40 ans de repos, 40 ans de liberté, de paix, le peuple revient encore dans ce même pattern-là où ils abandonnent l'Éternel pour revenir. C'est comme si le confort s'est installé, oubliant qui donne ce repos-là. Oubliant c'est qui a donné la paix, c'est qui donne le repos, c'est qui donne la liberté. Et tout à coup, ils sont tellement bien assis sur leur repos, sur leur liberté, sur cette paix-là, qu'ils ont abandonné Dieu, qu'ils ont oublié Dieu et retombent dans ce même cycle-là. Regardez verset 1. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » Un autre peuple maintenant qui est envoyé. On avait les Cananéens la dernière fois. Maintenant, on a les gens de Madian. Et quel effet avaient les Madianites sur Israël en cette période d'abandon-là? Quel effet les Madianites avaient sur le peuple d'Israël? Les Madianites étaient puissants. Quoi d'autre aussi? Ils étaient des oppresseurs. Alors, ils faisaient peur. Ils enlevaient certainement ce repos-là, cette paix-là. Quoi d'autre aussi? Quel effet est-ce qu'ils avaient? Comment est-ce que les gens d'Israël se sentaient? Comment est-ce qu'ils vivaient? Ils vivaient dans la peur. Ils étaient malheureux. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est intéressant de voir que jusqu'à présent, c'est la première fois que c'est cité qu'ils étaient très malheureux. On imagine qu'ils étaient malheureux les autres fois aussi. Mais là, ils sont très malheureux. Oui, Claude? Ouais. Ils étaient très appauvris. Qu'est-ce qui leur restait? Les Madians, je vais vous poser la question tantôt, qu'est-ce qu'on connaît d'eux? Mais avant, comment est-ce qu'Israël se sentait? Bien, la main, verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Puis pour échapper à Madian, qu'est-ce qu'il devait faire? Bien, il se retirait dans les ravins, il se plaçait dans des tranchées, et dans des montagnes, dans des cavernes, et puis sur des rochers fortifiés. Il se dispersait, il devait s'éloigner, il devait se cacher de l'oppression qui était permanente, qui était toujours là. Et certainement que la joie, la paix, le repos étaient plus présents dans le pays. Et vous allez voir que quand Dieu vient rencontrer Gédéon, on comprend qu'est-ce qu'il est en train de faire. On comprend le contexte de pourquoi est-ce qu'il est en train de battre son froment en cachette. Oui, M. Dumont. Pour les ramener à la raison. Ouais. Parce qu'ils avaient oublié. Et qu'on prenne exemple du peuple d'Israël. Qu'on tire profit de leurs erreurs et de leurs exemples pour dire que je peux oublier aussi. C'est facile pour moi que dans mon confort, que tranquillement, pas vite, oublier ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu fait pour moi. Et Israël oubliait. Et 40 ans, c'est une génération, mais ça leur aurait dû quand même être transmis. Aujourd'hui, on en parle encore. Mais ils auraient dû prendre exemple sur ce qui s'est passé et de voir comment est-ce que, pourquoi est-ce que les peuples revenaient justement parce qu'ils avaient oublié l'Éternel, puis ils l'abandonnaient. Israël était très malheureux, ils étaient appauvris, c'est un bon terme, je pense, à cause des Madianites. On imagine les Madianites qui, verset 4, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœuf, ni ânes. On comprend qu'ils étaient appauvris parce que les Madianites ramassaient tout et ils passaient. Qu'est-ce que l'on connaît des Madianites? Rapidement, faire une petite parenthèse pour qu'on comprenne qui sont-ils. Qu'est-ce que l'on sait des Madianites? Peut-être même du passé un petit peu, aussi juste quelques éléments. Qu'est-ce que l'on connaît sur les Madianites? S'ils campent dans des tentes, ça veut dire quoi? Comment? Des bédouins? Qu'est-ce que ça veut dire, des bédouins? OK. Bien, merci de m'informer. Je connais Bedo, mais je ne sais pas s'il habite dans des tentes. OK. Des nomades. Ouais. Ils se déplaçaient. Et ils utilisaient les autres peuples. Regardez verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek, avec les Amalécites, et les fils de l'Orient, les Mésopotamiens, ils marchaient contre lui. Et c'était des nomades qui pouvaient entrer dans le pays. Et ces gens-là, quand ils voyaient Israël, qui venait de semer, puis c'est le temps de la récolte, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, on va venir s'installer en Israël et puis on va planter nos tentes là. Puis on va profiter des richesses du peuple d'Israël puis on va leur prendre leurs biens. Alors, c'était des nomades, des bédouins. Merci, Claude. Et quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que l'on connaît? D'où viennent, d'où est-ce qu'ils viennent les Madianites? De Madian. Madian était le fils de... C'est peut-être loin, c'était loin pour moi aussi. Il a fallu que je me remémore ça. C'était un fils de... Initialement, le peuple de Madian vient d'Abraham. Abraham a eu un fils qui était Madian, d'une femme qu'il a eue plus tard. Il a eu Madian, et puis après ça, ce peuple-là, cet enfant-là s'est multiplié, il est devenu un peuple. C'était des descendants d'Abraham, pas nécessairement d'Ismaël, mais frères d'Ismaël. Et ça, vous pourriez voir ça dans Genèse 25:2. Ils sont aussi, vous vous souvenez, pour voir comment est-ce qu'ils étaient nomades, si on lit l'histoire de Joseph, Genèse 37:28, c'était des Madianites qu'ils ont passé et qui ont acheté Joseph. Ils passaient par là, et puis on dit aussi dans le même verset des Ismaélites, c'était des peuples très voisins, puis ils étaient souvent appelés soit Ismaélites ou Madianites, mais ils étaient de la même famille en bout de ligne, mais c'était des Madianites puis qui ont acheté Joseph. Souvenez-vous, le beau-père de Moïse, sacrificateur de Madian. Alors, c'était ce peuple-là, on imagine, qui prenait son expansion. C'était un peuple nomade. Et plus tard aussi, on connaît l'histoire de Balaam, qui concerne aussi les Madianites. Et avec Madian, et puis l'histoire, sans toute la raconter, Israël a eu un conflit avec Madian. Et Dieu a voulu châtier Madian avec son peuple, avec Israël. Et Dieu avait dit à son peuple, vous allez éliminer, vous allez les châtier. Et ça, on trouve ça dans Nombre 25, 17 et 18. Alors, ce n'est pas la première fois qu'Israël a un conflit avec Madian. Sauf que Dieu avait dit qu'Israël allait dominer Madian et qu'il allait pas être asservi par lui. Mais maintenant, Israël est asservi par Madian, ce peuple-là qui est nomade, à cause de leur désobéissance. Et ils sont châtiés maintenant à cause, justement, qu'ils ont abandonné l'Éternel. Dieu a écouté son peuple. Comme à chaque fois, le peuple, quand il est dans la détresse, crie à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il écoute. Il entend. Il est sensible. Il nous aime. Il écoute. Il tend son oreille à nos cris. Il a tendu son oreille à son peuple et il a écouté. Et un élément qu'on a aussi d'intéressant, il a parlé. Il a écouté et parlé à son peuple. Il y a eu un dialogue avec son peuple et on a l'impression que le dialogue ne s'est pas rendu très loin. Ce que Dieu a dit, on a l'impression qu'il ne s'est pas beaucoup étendu. Qu'est-ce que Dieu a dit à son peuple? Qu'est-ce que Dieu a répondu à son peuple? On imagine que le peuple, dans leur cri, on va voir ça avec l'exemple de Gédéon tantôt, mais on pourrait imaginer que dans leur cri, le peuple pourrait dire « Pourquoi Dieu, est-ce que tu permets ça? » Peut-être qu'ils avaient perdu le focus à savoir que c'était à cause de leur propre choix, à cause de leurs actions. Mais pourquoi Dieu, tu permets ça? Dieu, est-ce que tu nous as oubliés? Où est-ce que tu es? Où est-ce qu'ils sont les miracles que nos pères ont vus? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est oppressé puis on ne les voit plus? Et est-ce qu'il est trop tard, Dieu, pour qu'on puisse en être libéré. Peut-être qu'il y avait des différentes questions comme ça, mais qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que Dieu rappelle à son peuple dans les versets 8 et 9? Qu'est-ce que Dieu rappelle à son peuple? Ouais. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Regardez la fin du verset 8. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. C'est moi qui vous ai servi de la servitude. C'est pas mon désir que vous soyez dans la servitude. Mon désir, c'est de vous en sortir. Et je vous ai sorti de l'Égypte pour vous amener en repos. Quoi d'autre que Dieu rappelle à son peuple aussi? Oui. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Je vous ai déjà délivré. Je l'ai déjà fait. J'ai cette capacité-là, j'ai cette puissance-là de vous délivrer. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Le pays dans lequel vous habitez présentement, Dieu est en train de dire ça à son peuple. Je les ai chassés devant vous. J'ai cette puissance-là de les chasser. Mais qu'est-ce que Dieu rappelle aussi à son peuple? On l'a lu tantôt au verset 10. Vous n'avez pas écouté ma voix. Je vous avais dit, vous allez les chasser, vous allez prendre leur pays, mais ne craignez pas le Dieu des Amoréens, et vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas écouté ma voix. Et Dieu a écouté son peuple. Dieu a envoyé un prophète pour parler à son peuple. Et on voit par la suite que certainement que Dieu a offert cette réponse-là. Il est en train de préparer la libération tranquillement pour le peuple d'Israël, d'une façon particulière aussi, vraiment particulière avec l'histoire de Gédéon. Israël n'avait pas appris, on dirait encore, de ses péchés passés. Qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on tire exemple? Est-ce qu'on tire profit de nos erreurs ou est-ce qu'on ne veut plus les répéter? Ou est-ce qu'on fait attention, comment est-ce qu'on marche pour ne pas répéter les mêmes erreurs? Ou même encore mieux, est-ce qu'on tire profit des erreurs des autres? Peut-être qu'Israël n'a pas tiré profit de ses propres erreurs. On peut tirer nous-mêmes profit des erreurs d'Israël pour dire « je dois faire attention ». Comme on disait tantôt, le peuple est en repos, puis ils ont oublié. Et je dois être vigilant de ne pas oublier aussi. Quand les choses vont mal, on pense souvent que Dieu pourrait nous avoir abandonnés, alors qu'il faudrait se demander premièrement si c'est nous qui avons délaissé ses voies. « Vous m'avez pas écouté ma voix ». Vous n'avez pas écouté ma voix. Puis c'est pour ça, dans les cris que le peuple pouvait envoyer à Dieu, peut-être qu'ils avaient oublié leur responsabilité, leur part, et d'avoir écouté la voix de Dieu. OK, on va lire dans les versets 11 à 16 la première portion de la vie de Gédéon, du moins de l'appel de Gédéon pour l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait lire les versets 11 à 16? Juge 6, 11 à 16, Jean 5. OK. Gédéon, verset 11. Joas avait un fils. Joas, à la maison d'Abiézer, avait un fils, Gédéon. Puis qu'est-ce qu'il faisait, Gédéon? Il battait du froment au pressoir. Dans quel but? Pour le mettre à l'abri de Madian. Et là, l'ange de l'Éternel apparaît. Puis qu'est-ce qu'il dit à Gédéon? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est drôle un peu. Moi, ça me fait sourire, en tout cas. J'imagine que Dieu avait une perspective qu'il voyait dans cet homme-là que lui-même ne voyait pas encore. Dieu voyait un potentiel en lui que lui-même ne voyait pas encore. Un peu comme Moïse, peut-être. Mais c'est un peu drôle quand on lit ça. Vaillant héros. Puis le gars est en train de battre son froment en cachette pour pas se faire prendre par les Madianites. OK, on voit l'ange de l'Éternel qui vient se présenter à Gédéon, puis qui vient avoir une discussion avec Gédéon. C'est qui l'ange de l'Éternel? Qu'est-ce que l'on connaît sur lui? Juste pour pas passer trop vite par-dessus, c'est l'Éternel. C'est Dieu qui est en train de parler. Du moins, dans ce cas-là, on peut facilement comprendre que c'est l'Éternel. C'est une théophanie où ce que Dieu apparaît à Gédéon, puis vient lui parler. Dieu est avec toi, vaillant héros. Vous vous souvenez, Abraham aussi avait eu la visite de l'ange de l'Éternel sous les chaînes de Mamré. Et je trouvais ça intéressant que Gédéon, lui aussi, avait été visité sous le térébinthe. Et Dieu vient le rencontrer, comme il avait fait avec Abraham, puis il vient parler avec lui. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu. Regardez, on pourrait regarder verset 14. On continue l'histoire, et puis là, l'Éternel se tournant vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. » Tout à coup, on n'a plus le titre de l'ange de l'Éternel, mais maintenant, c'est l'Éternel se tournant vers lui. Comme avec Abraham. Vous vous souvenez, Abraham, il y a trois hommes qui apparaissent, puis Abraham, il est vraiment venant, il part à course avec eux, puis « Venez chez nous, puis je vais vous accueillir, puis je vais vous préparer à manger. » Et puis, il prépare à manger pour les trois hommes qui sont là. Et puis, à un moment donné, Genèse 18, 19, les deux autres hommes partent, on comprend, ces deux anges qui sont avec l'Éternel, ils partent pour aller vers Sodome et Gomorre, et Abraham reste avec l'ange de l'Éternel. Et là, il y a une discussion avec Abraham et l'ange de l'Éternel, où ce qu'Abraham discute avec l'Éternel sur, mais il doit avoir sûrement 50 justes, puis 40, puis vous vous souvenez de l'histoire. La même chose, Abraham avait une discussion comme ça avec l'Éternel, face à face, comme Moïse aussi. Et dans ce cas-là, c'est Gédéon, il y a la visite de Dieu qui vient lui parler. Dieu lui-même vient encourager son libérateur, vient lui parler et vient le rencontrer. Comment est-ce que Gédéon voyait-il l'œuvre de Dieu à ce moment-là comparativement au passé? Comment est-ce qu'il voyait l'œuvre de Dieu sur son peuple actuellement? Quand que Dieu lui dit, regardez verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et qu'est-ce que Gédéon remet en question? Pourquoi toutes ces choses? Comment? Ouais. Ouais. Si Dieu est avec nous, comment ça se fait que ces choses-là se passent? Quelle perspective est-ce qu'il avait de Dieu à ce moment-là? Dieu nous abandonne. Dieu n'est plus là. Le Dieu, puis il cite ses pères. Regardez verset 13. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » Gédéon avait la perspective maintenant, peut-être comme je disais tantôt, que le peuple qui crie à Dieu, « Dieu, pourquoi est-ce que tu permets ça? Tu es en train de nous abandonner? Puis, ce que nos pères ont parlé du passé, puis les miracles, pourquoi est-ce que tu ne fais plus ça encore avec nous aujourd'hui? » Et lui aussi, il avait perdu le focus sur son propre peuple qui avait compromis. Et avait perdu évidemment, Dieu avait la perspective du cœur de son propre peuple. Mais Dieu vient quand même solliciter Gédéon. Dieu vient rencontrer Gédéon d'une façon personnelle. C'est une chose qui m'a beaucoup touché. Je vous disais au début qu'en méditant un texte, il y a des saveurs qui viennent et puis qu'on goûte. Et puis, je réfléchissais justement sur cette rencontre-là personnelle de Dieu qui vient rencontrer Gédéon face à face, puis qui prend le temps de parler avec. Et une idée qui me touchait beaucoup, c'est pas le sujet de ma prédication, mais je veux quand même dire les choses qui m'ont touché, c'est que Dieu a pris le temps. Dieu a pris le temps avec Gédéon. Il est venu le rencontrer, il est venu parler avec. Il a écouté ce que Gédéon avait à dire. Il a écouté même les incompréhensions que Gédéon avait. Puis il a quand même fortifié sa foi, sa confiance. Puis il a pris le temps, puis je vais aller un petit peu plus vite dans le texte qu'on n'a pas encore lu. À un moment donné, Gédéon réclame un signe, et puis il dit, « Laisse-moi aller préparer mon offrande. » Puis Dieu, on imagine qu'il pourrait être quelqu'un d'occupé, puis j'ai d'autres choses à faire. Puis Dieu, il dit, « Je vais attendre là jusqu'à temps que tu aies fini, puis je ne partirai pas. » Et c'est quelque chose qui me touchait, où ce que Dieu vient nous rencontrer personnellement. Dieu veut prendre le temps avec nous. Et ça me touche beaucoup parce que, évidemment, Dieu est la personne la plus importante. Et même s'il est important, il est près de moi. Il se rend disponible à moi. Et c'est cette rencontre-là qui me touchait particulièrement, de Dieu avec Gédéon. Est-ce que Dieu avait besoin de Gédéon? Non. Dieu, et c'est bête à dire, Dieu n'avait pas besoin de Gédéon. Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé Gédéon? Pourquoi est-ce que Dieu est allé rencontrer Gédéon s'il n'avait pas besoin de lui? C'est pareil avec nous. Qu'est-ce que tu as dit, Claude? Israël avait besoin de Dieu et puis de Gédéon. Mais pourquoi est-ce que Gédéon voulait utiliser, pourquoi est-ce que Dieu voulait utiliser Gédéon? Oui, Daniel. Ouais. Montrer que c'était lui qui était tout puissant aussi. Oui, Serge. Ouais. 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 Oui. Avec sa faiblesse, Dieu veut manifester sa gloire, sa puissance avec justement les choses faibles de ce monde. Et de l'autre côté, si Dieu n'avait pas besoin de Gédéon, Gédéon devait comprendre que maintenant, c'était plus sur ses épaules. Si Dieu veut l'utiliser, pas par nécessité, pas parce qu'il est un grand, mais parce que Dieu veut l'impliquer à son œuvre, veut l'utiliser pour son œuvre, mais Gédéon, maintenant, pouvait se rendre disponible, sachant que Dieu allait faire le travail par lui, par intérêt et non par nécessité. Et Dieu veut nous utiliser encore aujourd'hui par intérêt. Et l'œuvre de Dieu, c'est un thème qui me touche parce qu'on voit présentement avec la jeunesse, on fait une mini-série sur Étienne. Puis quel homme de Dieu qu'est Étienne? Et puis Étienne, il n'est pas resté longtemps. Puis pourtant, il y a eu un témoignage incroyable. Et puis Dieu a utilisé Étienne dans un court temps. Et pourtant, nous, dans notre perspective humaine, on aurait pu dire, Étienne, c'est un homme de Dieu, un homme important, mais il me semble que Dieu aurait dû l'utiliser jusqu'à 90 ans. Puis il est mort, on imagine, très tôt. On ne sait pas quel âge qu'il avait, mais il est mort très tôt pour son œuvre. Et Dieu l'utilise selon son gré, comme avec Gédéon maintenant, qui l'utilise aussi à son gré. Pourquoi est-ce que Dieu est venu chercher Gédéon? Pourquoi est-ce qu'il lui dit « vaillant héros » Mais c'est pour l'utiliser, parce qu'il veut le solliciter, l'impliquer dans son œuvre. Puis Gédéon, lui, comment est-ce qu'il se voyait? Mais Dieu, tu veux m'utiliser? Comment est-ce qu'il se voyait, Gédéon? Il ne se voyait pas un héros, mais il se voyait un zéro. Ouais, c'est bon, probablement que c'était ça. Il ne se voyait pas grand-chose. Comment est-ce qu'il se voyait, Gédéon? Impuissant. Comment? Le plus petit de la maison de son père, il me semble, Dieu, il y en a des bien plus forts que moi. Je suis le plus petit, tu viens me chercher. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce qui jouait contre lui humainement? La famille la plus pauvre, le plus petit de sa famille. Dieu, on dirait qu'il est allé chercher le plus petit d'Israël. Le plus petit sur tous ses aspects. Regardez le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. » Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Puis là, Gédéon, il dit, ben, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Tu me dis d'aller avec la force que j'ai, mais il me semble que j'en ai pas. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Puis l'Éternel, verset 16, lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Quel est le commandement de Dieu pour Gédéon? Qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Va, ouais, fais-moi confiance, puis vas-y avec quoi? Vas-y avec la force que tu as, puis je m'occupe du reste. Je vais être avec toi. Va avec la force que tu as. Dieu veut nous utiliser à son œuvre. Dieu veut nous impliquer, va nous solliciter, et puis on pourrait des fois se sentir, mais Dieu, il me semble que je n'ai pas la capacité. Puis Dieu me dit, va avec la force que tu as. Et Dieu a utilisé Gédéon, va utiliser Gédéon. Puis verset 16 dit, je serai avec toi. Comme, et tu battras Madian. Dieu lui dit, je trouve ça intéressant, parce qu'au verset 12, l'Éternel est avec toi. Au verset 14, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Au verset 16, je serai avec toi. Encore là, c'est Dieu qui va tout faire. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui accompagne aussi. Dieu ne va pas laisser partir Gédéon tout seul sur le champ de bataille, puis dire organise-toi, puis avec la force que tu as. Mais non, je vais y aller avec toi. Je vais t'accompagner. C'est moi qui t'envoie. Et c'est très rassurant, c'est très encourageant, je trouve, pour nous-mêmes, pour nos propres vies, de voir comment est-ce que Dieu veut nous utiliser, comment est-ce que Dieu va multiplier la force que l'on a. Et avec le peu que l'on a, avec le peu d'ingrédients que l'on représente, Dieu produit des héros. Parce que finalement, ce que l'on a, on le donne dans les mains de Dieu. On le place entre les mains de Dieu. Puis le petit peu que l'on a, Dieu fait des merveilles avec. Et certainement que c'est ce que Gédéon avait à laisser faire, à laisser Dieu dans sa vie. Et Dieu lui a dit, va avec cette force que tu as. Puis Gédéon avait, avant cela, l'habitude peut-être d'utiliser sa force pour battre le froment en cachette, puis rester caché. Puis maintenant, Dieu lui dit, tu vas aller au-devant d'eux, plutôt que de rester caché, puis je vais t'utiliser. J'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse comme l'autre d'avant. Il va falloir qu'on coupe au verset 16. Bon, on va arrêter là pour l'instant. On continuera dans deux dimanches, parce que dimanche soir prochain, il n'y a pas de culte le soir à cause de Pâques. Mais quel caractère de Dieu, quel est le caractère de Dieu que l'on voit à travers les Écritures qui nous rassure? Qu'est-ce que l'on connaît de Dieu qui nous fait du bien dans notre marche chrétienne? Comment ça s'applique à nos vies? Ouais. Dieu est prêt à nous utiliser. Oui, René. Ouais. 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 Dieu nous transforme. Et déjà aux premières paroles de Dieu avec Gédéon, vaillant héros, Dieu est avec toi. Oui, Serge. Ouais. Ouais. Et patient. Dieu nous a donné de bons exemples. Nous-mêmes pour mettre en pratique aussi. L'enseignement de Jésus prend beaucoup de sens aussi quand on voit son caractère à travers le temps. Comment est-ce qu'il a pardonné. À chaque fois que son peuple crie, il lui pardonne, puis il le ramène aussi. Puis il le qualifie, puis il lui donne les éléments pour réussir aussi. En quoi est-ce que ça nous encourage, ça nous motive? Oui, Bertrand. Ouais. Il prend le temps avec nous. Il est présent. Il nous montre pas que on le dérange. Là. Ok, ben dépêche-toi, là, tu me demandes un signe, on l'a pas vu encore, mais ben, dépêche-toi, là, j'ai d'autres choses à faire. Je vais attendre. Puis je vais fortifier ta foi. Il prend le temps avec nous. Puis ça nous fait du bien. Comment? Ouais. Et il n'est pas dérangé par quoi que ce soit. Il prend le temps avec nous. Et ce que je trouve bien aussi, qui va dans la même direction, Dieu a fait un premier pas aussi vers Gédéon pour venir le rencontrer. Et puis Gédéon a accueilli cette rencontre-là sous cet arbre-là pour parler avec. Oui, il y avait Claudette, je pense que Claude aussi avait. Ouais. 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 Que Dieu est présent avec nous. Ouais. Dieu nous envoie, puis Dieu nous accompagne aussi. Et ça, c'est bien, parce que sans lui, sans sa grâce, on serait dépourvu. Mais à suivre, terminons par la prière. Seigneur, on vient devant toi encore pour te dire merci. C'est tellement bon tes Écritures, Seigneur, quand on voit qui tu es, de voir ton caractère, tellement patient, tellement fidèle, qui nous pardonne constamment, Seigneur, quand on se repent. On veut te dire merci, on veut te louer pour ça. Tu nous es cher, Dieu. Sans toi, on est perdu. Sans toi, on n'a pas cette liberté-là, on n'a pas ce repos-là. Si on vit le repos présentement, la liberté, la joie, c'est à cause de toi, parce que tu nous la donnes. Et Seigneur, garde-nous de faire ces mêmes faux pas-là. Garde-nous d'oublier, Seigneur, nos erreurs du passé. Garde-nous de ne pas prendre attention des erreurs, même de ce que l'on peut voir dans tes Écritures, puis ne pas les mettre en pratique dans nos vies pour ne pas les reproduire. Seigneur, on veut te louer, on veut te glorifier par nos vies, par notre marche. On veut te dire merci parce que comme Gédéon, on n'est rien aussi. On est certainement le plus pauvre et le plus petit. Puis en même temps, tu viens nous rencontrer pour nous dire que tu veux nous transformer en héros. Transforme nos vies, Seigneur. Mets tes mains dans nos vies pour nous modeler à ton image. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen.